Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris, dont je suis le directeur cette année. Alors, John Silk est venu nous parler de la Lune, qui, comme vous le savez, est le corps céleste le plus proche de nous. Et un corps céleste, c'est ce qu'on appelle un astre, n'est-ce pas ? Et j'avoue que dans un premier temps, j'étais un peu surpris parce que je connais Joe comme un grand cosmologiste. Et donc, il me semblait que généralement, son domaine était un petit peu plus éloigné que la Lune. Et donc, j'ai regardé un petit peu plus. Alors, évidemment, j'ai réalisé qu'il souhaitait nous parler d'un retour sur la Lune. Évidemment, les gens veulent retourner sur la Lune après quelques décennies, ce qui est plutôt peut-être amusant, intéressant. Certainement pour comprendre la Lune elle-même, peut-être la formation de la planète, de la Terre, etc. Ne soyons pas naïfs, peut-être aussi pour y récupérer deux, trois éléments qui peuvent être intéressants à exploiter au niveau économique. Mais Joe, lui, veut faire de la physique avec la Lune. Alors, il va vous expliquer ça, bien entendu, en détail, mais c'était juste pour me permettre un petit jeu de mots qu'il veut faire de la physique sur un astre. Donc, évidemment, il est totalement le bienvenu dans cet amphithéâtre de l'Institut d'astrophysique, qui est presque une redéfinition, grâce à lui, du mot. Et donc, voilà, je voulais juste l'accueillir avec ces quelques mots et ce petit jeu de mots et remercier Jean de l'avoir invité pour cette première carte blanche à Jean Oudouze pour cette année. Je vous remercie et bienvenue.
Merci beaucoup, Patrick. Donc, Patrick est donc maintenant le nouveau directeur de l'Institut d'astrophysique pour l'année 2024. Et donc, je suis très heureux que... C'est mon sixième successeur, voilà. Et donc, avant de vous présenter en quelques mots, enfin, oui, ce sera difficile parce que Joe a fait tellement de choses dans sa vie et on se connaît depuis si longtemps que ça ne va pas être facile de dire ça en trois mots, mais je vais le faire. Je présente les cartes blanches suivantes, les deux en tout cas. Donc, comme vous le savez, il y a alternance entre... celles qui sont organisées par moi au titre de l'Institut d'astrophysique et puis celles qui sont organisées par mon collègue Daniel Kunt, secrétaire général de l'Union rationaliste. Et donc, le 20 février, ce sera le tour d'un directeur de recherche au CNRS, François Graner, qui travaille à l'unité matière et système complexe à Paris, l'université Paris-Cité, et qui va nous parler de « Faut-il interdire la recherche ?». Et puis le 19 mars, un autre collègue, qui est plutôt de notre... Monsieur Graner est de la génération de mes enfants, alors que Jean-Loup Berthaud est plutôt de la mienne, c'est donc, qui est donc directeur de recherche émérite au CNRS, au LATMOS, Laboratoire d'atmosphère, milieu et observation spatiale, et qui va nous parler de gérer le nombre d'humains pour vivre bien et longtemps sur la planète. Et alors, normalement, en avril, ça devrait être Daniel qui propose la carte blanche, mais pour des raisons de voyage, donc... Éclipse de soleil, donc voilà, très bonne raison. Donc, le soleil rendez-vous avec la Lune, ce sera le cas, là, donc ce jour-là. Et donc, en avril, ce sera moi qui organiserai la carte blanche. Et en mai et juin, ce sera l'Union rationaliste. Alors, aujourd'hui, nous avons le privilège, Joe Silk est né à Londres, mais... Il a passé son doctorat à Harvard aux États-Unis et en 68 et en 69, j'ai eu la chance à Cambridge, Angleterre, de le rencontrer et on ne s'est pas beaucoup quitté depuis. Et donc, il a fait une grande partie de sa carrière, une trentaine d'années, à l'Université de Californie, Berkeley. Et puis ensuite, il est devenu professeur, Savilian Professor of Astronomy à l'Université d'Oxford, jusqu'au début des années 2010. Et maintenant, actuellement, il est professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, après avoir eu des différents postes comme une cher Blaise Pascal dans les années 90. Et puis, il est Homewood, professeur d'astronomie à l'université Johns Hopkins à Baltimore. Il a eu un prix international très important en 2011. Il est docteur honoris causa de Paris, Montpellier et d'autres. Voilà, enfin donc. Alors, mais ce qui est assez amusant, enfin, c'est que sa spécialité, c'est pas la Lune. Sa spécialité, c'est le Big Bang, les premiers instants de l'univers. Il a écrit d'ailleurs une dizaine de livres sur le sujet, que je vous recommande, Le Big Bang et Short Story of the Universe, etc. Alors, mais il s'est pris de passion pour la Lune. Alors, il a raison parce qu'on va bientôt y retourner. Enfin, c'est prévu. Si ce ne sont pas les Américains, ce seront les Chinois. Enfin, donc, il a écrit un livre qui est publié chez CNRS, enfin, d'abord qui a été publié à l'University of Princeton Press et qui a été traduit et publié chez CNRS Éditions et dont il va maintenant nous parler. Merci, Joe.
Merci Jean, merci beaucoup pour avoir m'invité à faire cette présentation. Alors, je vais commencer par dire que mon anglais n'est pas parfait et j'espère que tout le monde va me comprendre.
Oui.
Alors, je commence avec cette citation de Cervantes. En Don Quixote, il n'y a près de limite sauf le ciel. Et je vais montrer tout ça quand je parle de le projet en route pour la Lune. Alors, l'histoire commence avec John Kennedy, dans 1962. En réaction au lancement de Sputnik, etc., il a décidé de faire un grand effort et son agenda était d'aller à la Lune. Nous faisons le choix d'aller sur la Lune. C'est très difficile, etc., mais il a insisté. Et incroyablement, il a très bien réussi. Après, c'est un classique, un des photos prises par le dernier vol d'Apollo avec les astronautes sur la Lune en 1972. C'est un classique. Et pour le dernier demi-siècle, c'était la fin pour le voyage à la Lune avec les humains. Mais tout va recommencer dans la prochaine année pour plusieurs raisons que je vais discuter tout ça avec vous ce soir. OK. Pourquoi on va aller à la Lune? Il y a beaucoup de raisons. Pour moi, la plus grande raison, c'est la science. Il y a deux questions énormes que tous les scientifiques actuellement pensent que c'est les plus grandes questions qu'on doit confronter. Comment était commencé le Big Bang, l'expansion de l'univers, l'origine de l'univers. Et sommes-nous seuls dans l'univers? Il y a des autres, dans les autres planètes, etc. On ne connaît pas du tout la réponse à ces questions, mais je vais vous montrer que seulement avec les télescopes sur la Lune, on peut faire les vrais progrès pour répondre à ces questions. OK, je vais commencer par une petite collage de les plus grandes cosmologistes du XXe siècle. Tu peut-être vas reconnaître ces personnes, ils sont tous très connus, mais je ne vais pas citer les noms, mais je vais continuer. Parce que maintenant, on commence un nouvel siècle et il y a des nouvelles débats à voir sur les conséquences pour notre exploration dans l'univers. So ici, je montrerai le début de la cosmologie moderne, effectivement, c'est avec la découverte de le rayonnement du fond. Moi, j'étais un étudiant au début de mes études, en effet, quand on avait cette découverte. Et c'était vraiment un choc énorme pour tous les gens qui travaillaient dans la physique, l'astrophysique, parce que c'est une nouvelle composante de l'univers qui a découvert, très important parce que c'est une relique de le commencement de l'univers. Et ces 10 scientifiques qui ont découvert ces rayonnements fossiles. Et la chose qu'on peut... on sait maintenant, après beaucoup d'années à étudier ces rayonnements, c'est une distribution de rayons qui forme un corps noir, c'est-à-dire le rayonnement parfait. Et pour un physicien, c'est incroyablement important de regarder cette spectre. Ils ont pris, pas Penzias et Wilson, mais après 30 ans, avec le nouvel expérience dans l'espace, pour l'expérience Kobe spécifiquement, parce que c'est le plus précis spectre d'un corps noir on peut attendre. C'est un corps noir qui est dans l'espace, pas sur la Terre, pas dans notre laboratoire, mais dans tout le ciel de l'espace. Alors, la grande question est qu'est-ce que c'est l'origine de cet rayonnement? Et c'est sûrement dans le premier mois de l'univers. Parce qu'après ça, tout le rayonnement des étoiles, etc., est très, très différent d'un corps noir. C'est un rayonnement parfait, en effet. Alors, je commence avec un petit peu de biographie. J'étais un étudiant en Massachusetts. J'ai fait mon doctorat sur qu'est-ce que j'appelais les fluctuations de la boule de feu primordiale dans cet rayonnement que Penzias et Wilson ont découvert. En même temps, quand j'étais étudiant, un autre étudiant, j'étais à l'Université de Harvard, et mon collègue là, autre étudiant, George Smoot, il était à Massachusetts Institute of Technology, MIT. Et lui, il était. Moi, j'étais en train de finir mes études de doctorat. Il a juste commencé. Et il a étudié. Il a vu mes présentations. Et il était inspiré parce que il a commencé avec ça pour éventuellement, et ce n'était pas tout de suite, mais plusieurs. Dizaines d'années pour travailler sur détecter les prédictions que j'ai faites dans ma thèse. Alors, et ça a très bien marché. Il a fait cette découverte dans 92. Et c'était une grande. Et ça a attiré beaucoup de presse, et éventuellement il a gagné le prix Nobel, et c'était la découverte de la rayonnement fossile et les fluctuations dans cette rayonnement fossile, parce que c'était clair à l'époque que parce que notre univers est plein de galaxies, des amas de galaxies, etc., l'origine doit laisser une signature, une empreinte dans cette rayonnement fossile. Alors, on remarque que c'était sur un grand événement pour les scientifiques. C'était les premières pages, les grands titres des journaux anglais, américains aussi. Dans le monde, c'était pas dans les premières pages, mais néanmoins, c'était bien célébré pour la découverte des grumeaux de la soupe cosmique. Et c'est les deux scientifiques-là qui ont fait découverte. L'expérience pour les fluctuations, c'était préparée par Smoot sur la gauche, là, et sur le spectre parfait que j'ai montré, c'était par John Mather sur la droite. Alors, beaucoup de choses ont arrivé depuis. Alors, on doit dire que cette expérience de le satellite COBE dans les années 92 était assez primitive parce que maintenant on a attaqué la même donnée avec beaucoup plus de puissance à cause de meilleurs satellites, etc., la progrès moderne dans l'astronomie. Et c'était culminé avec une expérience avec une grande composante française, le satellite Planck, il y a quelques années, il y a 10 ans. Le final résultat a été obtenu. Alors, je vais montrer une image que beaucoup de vous ont déjà vue. C'est le ciel vu par le satellite Planck. Maintenant, nos modèles disent que c'était 380 000 ans après le début de l'univers. Et qu'est-ce que tu peux voir là? Les fluctuations. Il y a un rayonnement fossile presque uniforme dans tout le ciel qui vient de l'univers très jeune, mais parce qu'il y a des structures qui ont formé pour donner nous toutes les étoiles, etc. Il y a des fluctuations qui montrent leur origine. L'univers n'était pas homogène au début, mais c'était irrégulière, et ces irrégularités ont donné naissance à toutes les galaxies, en effet, beaucoup plus tard, dans les dernières centaines de millions d'années après ce début. Alors, il y a une grande question. Okay. Qu'est-ce qu'on a appris par ces fluctuations? Je n'ai pas dit que ces fluctuations, leur amplitude était très, très petite. C'était une fraction dans 10 000 de la température moyenne de cet rayonnement fossile. Les très, très petites fluctuations. Il y a des régions un petit peu plus chaudes, une petite fraction. Et ils ont donné la naissance à les galaxies, etc. Il y a des petites régions un petit peu plus froide, ils ont donné naissance à tous les grands vides dans l'univers où il manque leur structure. Mais la question est la chose qu'on a mesuré avec ce satellite, on a déduit que l'espace de l'univers était l'espace que Euclide a prévu dans un espace sans courbature, un espace plat. On peut imaginer un espace géométrique qui est courbé dans le sens négatif ou positif, comme une sphère ou comme le convers d'une sphère en hyperboloïde. En effet, notre univers est comme un plan, est très plat. Mais le problème, on a une bonne théorie de l'expansion rapide, on appelle ça l'inflation, qui a produit un univers plat à la fin, après beaucoup d'expansion. Mais l'origine, c'est qu'est-ce qu'on ne comprend pas. Il y a une grande question toujours, qu'est-ce que c'est l'origine de le Big Bang? On a une théorie qui s'appelle la théorie d'inflation, qui était la plus grande théorie depuis les époques d'Einstein, etc., et le maître, mais on a besoin d'une preuve as to comment sa théorie peut originer. Et je vais te montrer, la Lune va entrer dans cette discussion. Alors, pourquoi on doit aller à la Lune? Alors, en fait, il y a plusieurs raisons. C'est la dernière empreinte sur la droite là, de l'homme sur la Lune. C'était il y a un demi-siècle, mais on va retourner à la Lune. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est une course avec les Chinois, les Russes, les Indiens, beaucoup d'autres pays qui vont aller à la Lune. Ça donne beaucoup de force à les efforts de l'Europe et les États-Unis aussi. Et les raisons sont les suivantes. C'est difficile, c'est compliqué de dire ça, mais pour le tourisme maintenant, on cherche pour les endroits les plus exotiques. dans l'océan, par exemple, dans les profonds océans. Et on commence à explorer ça pour le tourisme et aussi dans l'espace. C'est la prochaine frontière. Pour aller à la Lune, c'est plus proche. Et là, c'est un endroit très exotique. À ce moment, pour les gens très riches, parce que le prix d'un billet, c'est plusieurs millions d'euros pour prendre un vol bientôt, en 2-3 ans, à courtoisie de Michel Musk, Elon Musk, par exemple, à la Lune. Mais on imagine que dans 20 ans, 30 ans, ça va être un peu comme les avions. Au début, les avions pour traverser l'Atlantique étaient très chers, le prix d'un billet. C'est tout changé. Je pense que ça va être exactement la même chose pour la Lune et je vais vous expliquer pourquoi. Et aussi, le tourisme, c'est une chose. Une autre, c'est qu'il y a des ressources sur la Lune minières et c'est très important. On a un problème avec la Terre. Il y a les terres, les éléments abondants, les éléments rares qui sont très importants pour tous les ordinateurs, etc. Beaucoup de choses. Sur la Terre, on a besoin d'une autre source. Et la Lune est très importante. Et finalement, il y a du carburant sur la Lune. Le carburant, pour nous, c'est le carburant pour les fusées spatiales. Et c'est effectivement de l'eau. On peut liquéfier l'eau et on a le carburant. Et pour aller plus loin dans le système solaire, on a besoin de carburant pour envoyer les fusées de la Lune. Où la gravitation est beaucoup moins que sur la Terre. C'est l'endroit pour l'avenir pour une base spatiale. Alors, tout ça, c'est prévu par pas mal de pays. Alors, mais en même temps, je pense qu'on peut aussi construire les télescopes grands et plus grands qu'on n'a jamais imaginé. Et la raison, c'est très simple. On a toujours, quand on explore la Terre, on met les télescopes toujours quelque part dans les hautes montagnes. Parce qu'on aime beaucoup explorer l'univers en même temps que nos environnements. C'est la même chose pour la Lune. On va mettre les grands télescopes là parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Alors, c'est beaucoup plus facile à regarder les étoiles, etc., avec une télescope sur la Lune. Il n'y a pas d'ionosphère, c'est-à-dire ça peut causer des problèmes avec les ondes radio qui peuvent traverser l'univers, mais sont un peu bloquées à certaines fréquences d'aller à la Terre. Et finalement, la gravité est très faible. Et à cause de cette faible gravité, on peut lancer les fusées plus loin dans le système solaire pour faire choses avec les robots, peut-être, avec les personnes aussi dans l'avenir pour faire l'expansion. Mais pour la science, je vais montrer qu'on peut répondre à les plus grandes questions que l'humanité a jamais posées. OK. Ici, je vais montrer quelques activités en concurrence avec les désirs à avoir le télescope sur la Lune. Ce n'est pas la seule activité. Les autres activités peuvent être certainement très importantes. Et on imagine une certaine concurrence. Je vais parler de ça. Alors, par exemple, il y a beaucoup de glace sur la Lune. C'est une découverte par une sonde spatiale indienne, il y a 10 ans. Et l'eau est très, très importante. C'est le carburant pour les fusées, pour l'exploration de le système solaire. On trouve ça dans les cratères polaires. Le soleil n'est jamais très haut dans l'horizon. Ces cratères polaires, ils ont toujours, s'ils sont pas loin de le pôle sud et le pôle nord, ils sont toujours en ombre et très froides, etc. Et là, on trouve beaucoup de glace. Alors, on va faire l'exploitation de ces glaces pour vivre sur la Lune et pour aller plus loin. Et après ça, il y a la question des métaux rares sur la Lune. On trouve que sur la Lune, il y a beaucoup plus de terres rares peut-être 10 000 fois plus qu'on trouve sur la Terre. C'est incroyable. Sur la Terre, on sait maintenant que dans peut-être un siècle, 10 siècles, on va avoir un grand problème, avoir assez de europium, de tous les éléments rares qu'on a besoin pour les ordinateurs, pour les téléphones cellulaires, pour les armements, n'importe quoi. Et ça va être un problème. Mais sur la Lune, les stocks sont énormes, alors c'est très attirant pour les grandes sociétés minières aller là. Alors, il va en concurrence. Et je te montre comment on peut chercher pour ces éléments rares. Ils sont toujours associés avec l'élément thorium. Et thorium est très faiblement radioactif. Et alors, on peut, comme uranium, et on peut examiner la Lune avec des satellites, on a déjà commencé à faire ça, et chercher les endroits, parce que le thorium est toujours mélangé avec les autres éléments rares. Et c'est comme ça, on peut, c'est comme dans le passé, on a cherché pour le pétrole. On doit chercher partout, c'est dans certains endroits. C'est pareil pour les éléments rares. Alors on va choisir le site pour faire l'exploitation minière dans l'avenir. Alors, finalement, j'ai parlé un peu de tourisme sur la Lune. On a déjà commencé à dessiner un village lunaire et on va mettre ça peut-être sur le pôle sud à commencer parce qu'à la pôle sud, le soleil n'est pas très haut dans le ciel, n'est pas trop bas, alors c'est toujours habitable, voilà, parce qu'on n'a pas les extrêmes sur l'équateur de la Lune. Où les extrêmes températures sont incroyablement larges. Alors, et notre agence spatiale sont en train de désigner et commence à construire, en effet, les moyens de livraison pour faire les bâtiments, les activités sur la Lune. Et par exemple, ici, il y a un design par NASA, un atterrisseur lunaire pour ça va être prêt en quelques années pour être prêt à faire les activités sur la Lune, industrielles, touristes, etc., etc. Et ISA, l'Europe, n'est pas très aussi va très fort dans la même direction. Ici, c'est un atterrisseur sur la Lune, c'est un peu comme un Amazon sur la Lune, si tu veux. Il peut porter plusieurs tonnes de matériel, plus qu'une tonne dans ce système, pour fabriquer les activités, simuler les activités sur la Lune. Alors, c'est finalement. Pour les scientifiques, maintenant je viens à parler qu'est-ce que les scientifiques vont faire sur la Lune. Alors, la première chose est dans la cosmologie, il y a une période très lointaine dans le passé, avant on a formé les galaxies, où il n'y était rien du tout dans l'univers, rien de lumineuse, pas d'étoiles du tout. Mais il y avait à ce moment beaucoup de nuages d'hydrogène. Et ces nuages d'hydrogène, on les utilisait comme les composantes de la galaxie de l'avenir. Alors, pour passer vraiment dans le passé, comprendre comment l'univers s'est formé, on doit étudier ces nuages. Et le seul moyen à l'étudier avec la radioastronomie, parce que le hydrogène atomique a une très spécifique fréquence de 21 cm et on utilise cette fréquence, cette émission ou absorption, pour étudier notre galaxie et beaucoup d'autres galaxies pas loin de nous. Le problème est quand on cherche le gaz très loin de l'univers, parce qu'on a beaucoup d'expansion de l'univers. Le rayonnement qui a une longueur d'onde de 21 cm aujourd'hui, dans le passé, avait une longueur d'onde de peut-être 5 ou 10 mètres. Alors, 10 mètres de longueur d'onde, c'est la même longueur d'onde qu'on utilise pour les radars, etc., sur la Terre. Mais le problème pour faire l'astronomie, c'est compliqué, parce que nous avons une ionosphère autour de la Terre. C'est dans tout le bruit qu'on entend quand la réception est très bonne sur la télévision, etc. Et cette ionosphère rend impossible à voir l'univers lointain. On doit aller plus loin que la Terre. Le meilleur endroit dans tout le système solaire, c'est la Lune, mais le côté obscur de la Lune. Pourquoi le côté obscur de la Lune? Parce que, premièrement, il n'y a pas d'ionosphère sur la Lune, pas d'atmosphère. Et deuxièmement, on ne peut pas voir la Terre. Et parce que le côté obscur, on ne voit pas la Terre. Et c'est la Terre qui donne beaucoup de bruit radio, des radars, les choses. Et notre téléphone cellulaire, la télévision, etc. Tout ça, c'est un bruit important, difficile pour l'astronomie radio. Mais sur le côté obscur de la Lune, c'est un merveille, c'est le paradis pour le radioastronome. Mais c'est compliqué d'aller là. C'est le prochain, c'est le premier but de science, de cosmologie qu'on va faire sur la Lune. Explorer le côté obscur et mettre les télescopes là. Et les télescopes sont très simples. Ici, on peut voir le côté obscur. Il n'y a pas grand-chose là pour le moment. Beaucoup de cratères, en effet. Plus comme le côté, on peut voir tout le temps de la Terre. Mais ici sont les sites où l'Apollo était... tous les sites on a déjà explorés. Sur le côté, on peut voir. Mais ici, il n'y a presque rien. Il y a un seul endroit où il y avait une fusée chinoise qui est landée les deux années. Je vais expliquer ça dans ce moment. Alors, j'ai dit qu'on a beaucoup d'expérience de construire ces télescopes qui peuvent explorer l'univers à ces très basses fréquences, qui peuvent illuminer les âges obscurs avant toutes les galaxies de l'univers. C'est la clé pour l'évolution. Alors ici, c'est un exemple d'un télescope qui a construit pour faire ça, qui est en Australie. Et c'est beaucoup de très simples antennes. On appelle ça, c'est des centaines de mille. On doit faire la même chose sur le côté obscur sur la Lune. Évidemment, à faire des centaines de mille de télescopes, c'est un peu compliqué. Mais ici, un design, dans ce design, c'est un concept. Et il y a c'est les antennes imprimées dans les grandes les choses jaunes, sur les choses imprimées dans Mylar, en plastique effectivement, et ça c'est connecté par des câbles et c'est effectivement un grand télescope radio avec beaucoup de dipôles, un peu comme l'équivalent à les télescopes on a fait construire en Australie. Alors, je vais now décrire qu'est-ce qui va arriver sur la Lune dans les prochains 2 ans. Et c'est vraiment une grande accélération pour faire l'astronomie radio sur le côté obscur de la Lune. Premièrement, on avait le premier et le seul télescope qui était déjà arrivé à la Lune en radio. C'était un Chinois, le Chinois, Chang'e, en 2019. C'est le premier atterrisseur sur le côté obscur. Et ce n'est pas marché parce qu'ils n'ont pas séparé, ils n'ont pas réalisé que leur atterrisseur était une grande source de bruit, etc. Ils n'ont pas assez maîtrisé ça. Alors, on ne peut pas écouter l'univers distant. Mais tout ça va changer dans les prochaines années. Il y a 2 expériences maintenant, un Américain, un Chinois. L'expérience américaine s'appelle Lucy Knight, c'est le nom. Et c'est seulement une antenne très simple. C'est un dipôle. Et cette dipôle, Et c'est typiquement 10 mètres en longueur. Et c'est très sensible aux les ondes radio de 10 mètres aussi. C'est parfait pour étudier ça. Il va regarder l'univers très loin, espérer avoir la signature des âges sombres de l'univers, avant les galaxies. On appelle ça les âges sombres. Et en principe, il y a une concurrence. Et la concurrence, ça vient de Chine. Et la Chine a un autre projet très similaire. Leur projet a avoir plusieurs petits satellites, each avec une antenne, qui fait le tour de la Lune. Et quand ils sont derrière, ils cherchent pour le signal cosmique. Et quand s'ils sont de notre côté, ils voient le signal à la Terre, à notre Terre. Et pour cette expérience, avoir un satellite qui va transmettre le signal de cette. Et tout ça, ça va arriver en 2 ans, les prochains 2 ans. OK. Mais c'est pas, on n'arrête pas là, parce qu'avec un seul ou deux petits dipôles, on ne peut pas explorer tous les détails de la cosmologie de l'âge sombre. C'est un peu comme notre découverte du rayonnement du fond cosmique. Avec Penzias et Wilson, on a étudié le signal global, mais avec le satellite après, Planck, que j'ai montré, on a vu les fluctuations. Mais pour voir les mêmes choses avec le radio, le signal radio de l'univers distant, on a besoin de beaucoup, beaucoup d'antennes, de télescopes énormes. Alors, on doit commencer à construire les grandes antennes. Le premier design, c'est avec une centaine d'antennes. C'est un projet de NASA. Ça va être suivi, tout ça, c'est en 10 ans. Pour un projet chinois, ici l'atterrissage chinois, une simulation de ça, et on va avoir, again, 200 poissons antennes sur la Lune, l'obscur côté de la Lune. Mais on n'arrête pas là, il y a Europe, va jouer aussi le même jeu, et avec Europe, on a un argument pour un observatoire. Et ce observatoire, c'est très intéressant. C'est les tubes en matériel qui peut avoir une inflation. Et sur ce matériel, il va imprimer les antennes. Ce télescope doit avoir peut-être quelques kilomètres. Alors, avec les antennes primées. Et le plus ambitieux de tous, c'est une expérience prévue pour avoir des 100 000 ou plus d'antennes sur la Lune pour construire un vraiment grand télescope, mais qui va, parce que c'est assez lourd pour porter tout ça sur la Lune, cette expérience va imaginer à utiliser les ressources locales de la Lune pour fabriquer sur la Lune ces antennes. Tout ça, c'est possible. Dans le régolithe, la poussière sur la Lune, on a tous les éléments qu'on peut imaginer avoir besoin pour fabriquer le béton, le métal, etc. C'est un projet ambitieux pour l'avenir. Tout ça peut-être en 20 ans, 30 ans. OK, bon. Pour continuer, qu'est-ce qu'on va comprendre? Je vais dire quelques mots sur la science. La science, la première chose qu'on veut faire est faire plus que ce rayonnement parfait de fossiles, rayonnement fossile, parce que c'est un corps noir parfait, en effet, mais on imagine que le vrai univers ne peut pas avoir une émission parfaite. On doit voir les déviations de la cour noire. Et c'est indiqué ici. La théorie, en tout cas, ce n'est pas exactement comme était mesuré par Kobe, mais avec 1000 fois plus de sensibilité, on doit voir les déviations. Et c'est l'idée. C'était déjà connu par l'ESA, la Spatial Agency Européenne, pour un grand projet pour les années 50, en effet. On doit faire peut-être 100 000 fois mieux que le satellite originellement qui a découvert cette spectre a fait. C'est une grande augmentation de sensibilité, mais tout ça, c'est possible. Et mon collègue Jean-Pierre Meillard a réalisé que le meilleur endroit à mettre un télescope avec un interféromètre pour chercher cette déviation de le spectre parfait de le creux noir était dans un grand cratère pas loin de la pôle sud, parce que c'est toujours sombre et froid. Et je vais revenir à ça dans un moment quand je describe les autres projets pour la Lune. Et il y a un autre projet aussi pour avoir cette fois un grand télescope. Le précédent, c'est un petit télescope dans sa cratère, mais si on veut être plus ambitieux, on peut imaginer un télescope de 13 mètres, par exemple. Et la chose importante avec ce télescope, ça peut faire beaucoup meilleur que notre télescope James Webb, qui maintenant a découvert beaucoup de nouvelles choses sur la Lune. La seule chose qu'on peut extrait de ça, c'est peut-être 10 ou 100 fois meilleure cette expérience qu'on a prévu pour le Webb télescope. C'est une mesure de les lignes solides sont une mesure de la sensibilité. Bon. OK. C'est pas seulement les ondes radio, les infrarouges, qui va être très intéressant, et aussi les ondes gravitationnelles, again, utilisant un cratère, à l'idée d'avoir des lasers sur la Lune, un peu comme les expériences qu'on a déjà construites sur la Terre pour détection des ondes gravitationnelles. Et la Lune, c'est un endroit parfait pour ça, parce que c'est sismique, très silencieux, pas comme la Terre. Alors, on imagine faire les grandes choses là. Finalement, la Lune a un endroit incroyable pour l'astronomie de rayons X, qui est un moyen de détecter les grands trous noirs dans l'univers, les trous noirs très massifs. Et ça, on peut faire avec beaucoup plus de précision qu'on peut faire dans l'espace. Parce que la Lune donne une surface très stable, on peut mesurer beaucoup plus de précision. Donc, ça, c'est le projet pour les prochains 50 ans, j'imagine, sur la Lune. OK. Finalement, peut-être la plus intéressante chose également, c'est la recherche pour la vie extraterrestre dans l'univers. Alors, on est... Beaucoup de mes collègues sont convaincus que ça doit exister quelque part, mais n'ont pas la moindre idée de la fréquence de cette vie extraterrestre. On doit chercher beaucoup d'autres planètes autour de beaucoup de stars, étoiles pour être certain. Alors, ici, c'est proche à nous, le meilleur endroit dans notre système solaire. C'est Encelade, c'est un satellite de Saturne, et c'est un satellite plein de glace, couvert de glace. C'est très brillant, en effet. Et dans ces satellites, on trouve qu'il y a des fissures et les jets d'eau qui sortent. Et on imagine, c'est un modèle, qu'au-dessus de cette glace, il y a... les possibilités dans l'océan de l'eau avec des matières organiques déjà des qui sont possibles pour la vie. Bon, c'est la meilleure chose qu'on a dans notre système solaire peut-être. Mais je pense, comme vous peut-être aussi, que imaginer la vie intelligente dans un endroit comme ça, c'est pas raisonnable. Peut-être quelques poissons, ou je ne sais pas quoi, pour imaginer. Mais la chose qu'on doit faire est chercher des autres planètes. Il y en a beaucoup dans l'univers. Et l'idée, en effet, chaque étoile dans notre galaxie a plausiblement des planètes. On doit trouver les planètes pas trop proches de l'étoile, pas trop loin. il ne doit pas être trop chaud, non pas trop froid, mais on est certain qu'il y a des milliards d'exoplanètes autour de nous. Et la question est comment on peut trouver les traceurs de la vie dans ces planètes. Et je vais montrer maintenant que la Lune va nous aider beaucoup. Et l'idée est d'avoir un télescope assez grand sur la surface de la Lune dans un des cratères que je montre ici, vers le pôle sud. Pourquoi ces cratères? Parce que c'est la région très froide et très sombre. Alors, le projet spatial pour chercher pour la vie dans l'univers, c'est un projet de NASA avec ESA aussi impliqué, Europe aussi impliqué, et c'est d'avoir un télescope assez petit dans l'espace. Et ça ne va être pas construit jusqu'au, je pense, 30 ans de maintenant. Mais c'est déjà, en principe, on est sur ce chemin-là. Mais le problème avec ce télescope assez petit, ça limite, il ne peut pas voir très loin, ça limite sur une vingtaine d'exoplanètes, c'est les planètes distantes. Si on a un plus grand télescope sur la Lune, le plus grand télescope, le plus large de la région d'espace, on peut surveiller. Et on imagine que, comme c'est avec un télescope d'une centaine de mètres, par exemple, on peut avoir les mille de candidats pour chercher pour la vie. Ça, très important. Les statistiques sont meilleures s'il y a plus de candidats. 20 est pas assez, 25 est pas assez, mais 1000 peut-être. Mais vraiment, on ne sait pas. Mais peut-être la meilleure chose à faire est de regarder en détail les planètes extra-systèmes solaires autour de nous. Et ça, on peut visualiser avec un encore plus grand télescope. C'est ici une idée par un astronome français, Antoine Laborie et ses collègues, pour un petit télescope dans un cratère sombre, polaire, qui peut simuler l'effet d'un télescope qui est des kilomètres en diamètre. Alors, avec cet énorme télescope, on a incroyablement bonne résolution. Et si, par exemple, on regarde le système proche à nous, seulement 40 années-lumière de nous, qui s'appelle TRAPPIST-1. Et avec une très bonne résolution, on peut imaginer voir les atmosphères, les océans, les montagnes, peut-être si une de ces planètes est habitée, la lumière dans la nuit, voilà, de la cité, ça, c'est tout ça, c'est l'idée de cette expérience. Et on peut faire seulement ça sur la Lune, avec pas d'atmosphère pour nous donner la turbulence. Tu sais, les étoiles ne sont pas très précises à cause de l'atmosphère, la turbulence de l'atmosphère. Sur la Lune, on n'a pas ce problème. On peut faire l'astronomie très, à grande précision. Alors, maintenant, je vais terminer avec les choses pratiques. Le problème à ce moment est le seul télescope pour prendre les humains à la Lune. C'est un projet de NASA qui est très, très cher. Et le problème, c'est un télescope qui n'est pas recyclable. Alors maintenant, on a des concurrents sur le télescope peut prendre une centaine de tonnes à la Lune. Il y a deux autres fusées maintenant qui sont en train d'être testées. Les deux sont le secteur privé. Et la chose importante, ils sont recyclables. Et pour cette raison, le prix d'aller à la Lune per tonne, c'est beaucoup moins que le télescope de NASA. Imagine, il y a plusieurs milliards d'euros pour le lancement de le télescope qui n'est pas recyclable versus quelques millions pour le Starship d'Elon Musk, et peut-être le même pour le projet de Jeff Bezos. Ils sont les deux entrepreneurs qui sont en train de pousser vraiment le lancement de grandes fusées et commercialiser tout ça. Et peut-être avec ces réductions en prix par tonne, on peut imaginer beaucoup de choses sur la Lune dans le proche avenir, en effet. OK. Le code de lancement baisse et à cause de la réutilisabilité et peut-être à cause de concurrence aussi. Et les fusées similaires ont certainement construction dans Chine ou peut-être autre pays, mais on ne sait pas trop. Alors, où installons-nous nos télescopes sur la Lune? Le meilleur endroit sont les cratères polaires, sont dans les pôles de la Lune, probablement plus le pôle sud, où il y a beaucoup plus là. Et la chose qui est incroyable là, est parce qu'ils sont vers les pôles et les... et aussi les bords à lever autour de le cratère est très haut, des kilomètres haut. Le soleil arrive très haut ou très bas dans l'horizon. Alors, ces cratères sont toujours dans le noir. Voilà, et sont très froids aussi. Et c'est le site idéal pour mettre le télescope dans l'avenir, mais aussi pour chercher de l'eau, évidemment. Et le degré de froid, c'est incroyable, c'est 30 degrés... c'est moins 240 degrés centigrades. Voilà, c'est vraiment froid. Alors, l'idée est d'aller à la Lune, mais le problème, il y a plusieurs pays maintenant qui s'intéressent beaucoup à ça. Il va y avoir du monde sur la Lune. Et pour la science, l'astronomie, il y a un nombre limité de sites et beaucoup de concurrence commerciale pour ces sites. Et le problème qu'on doit résoudre dans la prochaine année, j'espère, c'est la question de la loi. Par exemple, est-ce que la première fusée va demander à utiliser la Lune sans concurrence, etc. Mais il y a le droit minier, le droit pénal, et le droit anti-pollution de tout ça. Et tout ça, c'était discuté il y a maintenant un demi-siècle à la Nations Unies. Et un traité a été signé. On peut voir les gens, peut-être on connaît, je pense, c'est Lyndon Johnson là. Il y a sans doute un Français dans le coin, il y a Russie et UK. Je n'ai pas d'une fait les autres, mais c'était un traité. Mais le problème avec ce traité, il n'y a pas un moyen d'enforcement. Comment on peut mettre en œuvre les bonnes idées sur la pollution, l'utilisation militaire, etc., qui est interdit pour la Lune, mais on a besoin d'un moyen d'enforcer ça. Mais si on peut arriver à faire ça, on peut adresser éventuellement avec un télescope les questions comme sommes-nous seuls et quelles étaient nos origines cosmiques dans l'expérience sur la Lune. Je vais finir alors avec un petit avertissement. J'ai écrit un livre, Retour à la Lune, sur la Lune, qui donne un peu de... si vous voulez, vous pouvez trouver les choses, toutes les idées sont exprimées là. Et j'espère que vous avez bien compris que le message que je vais donner, c'est la Lune, c'est l'avenir. L'avenir pour beaucoup de choses, mais aussi pour la science, pas seulement pour les choses commerciales. Voilà. Merci beaucoup.
On va commencer par les questions de la salle, parce qu'il y en aura après, peut-être venant de l'Internet. Qui veut poser la première question? Madame? Ah, pardon.
Alors, moi, ce n'est pas vraiment une question que je voudrais poser, parce que je suis celui que Joe a cité tout à l'heure, Jean-Pierre Maillard, donc je suis impliqué, en effet, dans ses projets. Et alors, il apparaît qu'il y a un peu une contradiction entre justement l'exploitation minière, le tourisme, ça et tout, et puis faire de la science. Et donc, je suis personnellement investi dans un, et s'est créé un groupe de travail qui est sous l'obédience de ce qu'on appelle l'UAI, l'Union Astronomique Internationale, pour réfléchir justement à protéger la Lune et qui pourrait arriver pour vraiment pour la science, un peu traité un peu comme vous savez pour l'Antarctique par exemple, où il y a un traité qui protège pour qu'il n'y ait pas d'exploitation. Il y a des tentations. Hein, pour la Lune. Et donc, il y a un peu le même problème pour la Lune, parce que, bon, c'est très vrai, oui, le thorium, bon, choses comme ça et tout. Mais enfin, bon, donc ça doit être contrôlé véritablement. Et donc, participe à ce groupe de travail bon, pour essayer de définir quel contrôle et pour mettre la priorité sur la Lune et entre autres les sites. Donc, par exemple, donc les pôles, pôle nord et sud, puisque l'axe de rotation de la Lune est pratiquement perpendiculaire au plan de l'écliptique. Donc, du coup, en effet, il y a des cratères depuis 4 milliards d'années qui sont complètement dans l'obscurité, d'où des conditions exceptionnelles. Et donc, c'est des sites à protéger. Et donc, si on va y faire des exploitations minières, il y a contradiction. Donc, c'est pour ça que ça me paraît très important de ce groupe de travail donc, pour arriver à poser la question au niveau international, l'ONU, enfin justement, pour vraiment définir le statut scientifique de la Lune.
Mais moi, j'ai été impliqué dans le traité de l'Antarctique. Je peux dire que pour ce genre de choses, vu la situation internationale actuelle, ça ne va pas être de la tarte. C'est-à-dire que, à mon avis, la probabilité qu'on arrive, et puisqu'il y a deux grands acteurs, et deux grands acteurs qui ont véritablement fond de la Lune, des terrains de concurrence. Et donc, moi, je suis... tu as tout à fait raison de poser ces questions-là, mais je... Il y a les problèmes techniques qui sont déjà passablement importants, mais les problèmes d'ordre négociation internationale, moi, à mon avis, sont la probabilité qu'ils soient résolus dans un proche avenir pas très élevée.
So, heureusement, il n'y a pas un énorme nombre de grands cratères sombres à la pôle sud. Il y a peut-être une douzaine. Et la chose intéressante pour nous, astronomes, c'est 9 sur 10 peut-être, on le glace. Il y a un ou deux sans glace du tout, alors sans intérêt commercial. Alors ça, j'espère, va attirer l'attention des comités qui vont décider de ça.
Il y a une dame qui veut poser
la question. Moi, je voulais simplement compléter, parce que j'étais effectivement dans cette notion, je ne suis pas du tout scientifique, hein. Moi, j'étais sur l'idée de ce côté du droit, en fait. Parce qu'en fait, dans la photo qu'on a vue tout à l'heure, il n'y avait pas les Chinois. Hein. Ou du moins, on a mal lu peut-être la photo, mais dans la photo du traité. Et en fait, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait les États-Unis, il y a la Chine qui est très active, il y a l'Inde. Tous ces pays-là, ils s'entendent moyennement. On a tous des intérêts un peu différents. Voilà, donc on a tellement mal aujourd'hui au niveau de la planète à s'entendre. Déjà, pour aller chercher sur la Lune, il y a un enjeu qui est considérable.
Je peux ajouter, ce n'est pas seulement les grands pays, il y a aussi le Japon, c'est un grand pays peut-être, qui a déjà allé à la Lune. Et dans le proche avenir, on a aussi les plus petits pays, comme les United Arab Emirates, c'est une, ils ont un petit lancer pour la Lune, Israël aussi. Alors, on peut imaginer tous les problèmes actuels dans le monde vont être répétés sur la Lune.
J'ai une petite question complètement naïve. Il y a plein de cratères sur la Lune parce qu'il y a plein de cailloux qui tombent dessus. Si on laisse quelque chose ad vitam, un télescope ou quelque chose comme ça, la probabilité qu'il se prenne un gros caillou et qu'il explose n'est pas trop grande.
Alors... C'est plutôt une question, le danger sont plutôt les micro-astéroïdes, etc. Et ils sont assez rares, on connaît déjà, pour ne pas être un grand problème. Par exemple, notre dernier grand télescope, le Webb télescope, qui est un million de kilomètres ici maintenant, il a souffert d'une petite collision avec un petit astéroïde. Voilà, ce n'était pas donné grand-chose. Et je pense que c'est pas très, et c'était déjà sur une partie énorme de cette facilité. Je pense que la Lune va être peut-être aussi pas trop dangereuse.
Moi, j'ai l'impression que ce qui va coûter, c'est le premier. Mais j'ai compris que la matière, à partir du moment où on saura faire le premier, le remplacer des parties, ce sera relativement peu coûteux, puisque le problème, c'est de l'envoyer là-bas. Quoi.
J'ai lu quelque part que le coût d'Apollo, ça a été à peu près 35 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien, mais que ramener d'ailleurs au dollar actuel, ça serait beaucoup plus élevé. Et certains se posent des questions sur le coût exorbitant de ce genre de projet et qui peut se permettre de le faire, quel pays, quel État. Et ça, j'ai eu des chiffres parce que tu as donné 2 milliards, mais c'est juste pour envoyer la fusée. Mais après, il y a tout le reste. Il faut aussi protéger les gens, s'il y a des gens qui vont là-bas, sauf si c'est entièrement robotique. Enfin voilà, j'ai vu des chiffres de l'ordre de 100 milliards, etc. Et là, ça commence à être effectivement significatif. Donc comment penser financer ce genre de choses?
Alors, c'est l'histoire qui nous donne des leçons. Quand Kennedy a annoncé son projet pour la Lune, le total dépensé, c'était quelques milliards de euros, dollars, n'importe quoi. Mais si on n'a pas fait ça, après ça, on a commencé l'exploitation de l'espace avec la navette spatiale, etc. Et le prix de la navette spatiale, la station internationale, etc., c'était quelques milliards de dollars. Et si on n'avait pas ça, on n'a jamais construit le télescope Hubble et tous les autres satellites pour astronomie. Nous étions, c'était un prix beaucoup moins que ça, 3-4%, on calcule. Alors, 3-4% pour la science, c'est possible, si on a déjà un grand budget. J'imagine pour la Lune, on va avoir exactement la même situation. Toute l'infrastructure, les fusées, etc., incroyablement cher, mais pour la science, quelques pourcents de ça va être assez pour tous les projets que j'ai montrés. Alors, c'est comme on est, comment on dit, on est sur les épaules d'un géant. Voilà.
J'ai une question sur cette notion de carburant à partir de l'eau. Il s'agit de l'hydrogène, mais on a encore beaucoup à progresser pour arriver à produire un carburant d'une puissance suffisante pour explorer l'espace tout de même, à partir de l'eau.
Alors, le meilleur carburant pour les fusées actuelles, c'est le liquide hydrogène et oxygène. Alors, c'est ça. On parle toujours de la nouvelle âge d'hydrogène pour fuel, etc. C'est un peu comme ça pour les fusées. Alors, parce qu'on a beaucoup d'eau, incroyable abondance, on pense seulement avec la puissance solaire, lumière solaire, etc., ultra-vie, on peut facilement convertir beaucoup de cet hydrogène en fuel pour les fusées. Alors, ça ne manque pas pour la Lune. Question.
Merci. Je me posais la question, comment allaient s'organiser les équipes de maintenance de tous ces télescopes sur place? ou si la maintenance serait assurée à distance. Et alors, pour justement le, pour les équipes, pour faire pour les faire dormir, les faire enfin voilà. La logistique, voilà, la logistique de la maintenance des télescopes sur place ou à distance, comment ça se passe? Merci.
Alors, on imagine tout ça va être une combinaison d'êtres humains, mais aussi avec les robots. Alors, exactement le bilan entre les deux, ce n'était pas trop clair, mais récemment, tout a changé. Et c'est parce que, dans le passé, on a pensé qu'on peut mettre, avoir un robot pour faire certaines choses, mais à cause du délai d'une minute, deux minutes entre la Terre et la Lune, ça peut être très dangereux, il peut tomber dans un trou, n'importe quoi. Mais tout ça a changé depuis, parce que l'importance de l'intelligence artificielle. Maintenant, on peut, en principe, et ça va être beaucoup plus facile dans le prochain avenir, former les robots qui peuvent faire n'importe quoi avec leur intelligence artificielle et faire beaucoup de choses sur la Lune. On a besoin des humains, mais peut-être pas trop nombreux pour durer tout ça. So, j'imagine que ça va être l'avenir pour la Lune.
Oui, alors il y a quelques questions venant des internautes. Il y a une question qui me paraît plus simple. Y a-t-il des saisons sur la Lune? Y a-t-il un hiver polaire, par exemple?
Ah oui, alors ça va être difficile à vivre dans l'extrême froid ou l'extrême chaleur. Mais on a des solutions, c'est pareil pour les télescopes. Une solution pour un télescope est parce que le chauffage vient de rayonnement du soleil. Si on met une couche de plastique au-dessus du télescope, ça contrôle la température incroyablement bien. C'est une chose, pendant le jour, où la température peut être 300 degrés, etc. On doit aller peut-être pour habitation sur la Lune. On imagine qu'on va utiliser les grands tubes de lave qu'on a trouvés sur la Lune. Ils sont énormes, avec une couverte de basalte, de roche assez épais pour donner beaucoup de protection contre la chaleur et le froid aussi.
Je peux continuer? Il y a deux autres questions. Une qui traite de la Lune. Hein. Une question très simple. Pourquoi les cratères de la Lune sont-ils toujours circulaires? Un météorite tombe-t-il toujours à 90 degrés? Voilà, ça c'est une question simple. Et l'autre question, je reviendrai après. Je laisse répondre sur celle-là.
Alors, les cratères sont souvent ronds. C'est parce qu'on a beaucoup d'impact. Des astéroïdes, petits astéroïdes, météorites, etc., sur la Lune. Et l'initiale configuration, c'est plutôt circulaire, il y a des impacts comme ça. Il n'y a pas beaucoup de tremblements de terre, etc., sur la Lune. Ce n'est pas disfiguré le terrain.
La Terre ressemblerait à ça s'il n'y avait pas la tectonique des plaques, en fait. C'est d'une certaine façon la mémoire de la Terre. Alors, l'autre question, il y a beaucoup de soucis concernant effectivement les implications militaires et politiques. Voilà, alors tu as un petit peu évoqué le sujet en parlant de l'accord qui date de 1967, mais maintenant il y a quand même de nouveaux venus. La Chine ne faisait pas partie des gens qui ont signé les accords, que je sache. Hein. Donc, effectivement. Ça peut être aussi un enjeu, un terrain de chasse pour les militaires. Pourtant, il y a peut-être des implications militaires dont on ne parle pas. Et il y a évidemment des implications politiques, puisque tu as parlé des minerais, des ressources, etc. Voilà, ça fait partie des questions qui reviennent assez souvent.
Oui. Non, la question de l'utilisation militaire, c'est une grande question. Je ne vois pas la solution. Actuellement, je pense derrière la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Europe, pour aller dans l'espace, aller à la Lune. Il y a un composant militaire derrière ça, parce que les mêmes fusées pour être utilisées éventuellement pour mettre les satellites autour de la Lune pour espionnage, beaucoup de choses comme ça. Alors, on doit avoir régulé, je ne sais pas comment, régulé l'utilisation de la Lune pour les choses militaires.
Je pense que dans cette vision assez... Non, c'est vrai, tu présentes une vision assez, comment dire, oui, assez joyeuse, oui, hein, de l'évolution de l'astronomie. Reste ce problème politico-militaire qui me paraît la grande difficulté, vu les tensions qu'il y a, si tu veux, non seulement entre pays, mais même avec les... Il va y avoir des opérateurs privés. Si Musk décide de faire ce qu'il veut, il fera ce qu'il voudra. Il n'y aura pas de... Comment dire, il n'obéira pas à des régulations. Enfin, moi, je suis inquiet, personnellement inquiet, que le monde, enfin l'humanité ne trouve pas les bonnes règles pour utiliser correctement la Lune. Ça, c'est une difficulté.
Oui, oui, mais on commence à faire les choses. Il y a maintenant un comité de travail associé avec les Nations Unies. Je suis avec Dr. Maillard, moi aussi, je suis dans cette working group. Et on le sait, on va avoir assez de pression. On commence avec la question de pollution et contrôler ça, mais les questions militaires ne sont pas très loin derrière. Et voilà. Bon.
Mais même, excuse-moi, mais même dans le cas de l'Antarctique, c'est fragile. On est obligé de se bagarrer contre les Russes, par exemple, ont envie de creuser et d'aller voir ce qui se passe.
Le moratoire dans 47 ans va être rediscuté.
Voilà. Le laboratoire antarctique.
En ce moment, le traité de l'Antarctique a une durée de vie finie.
Voilà.
Et c'est pas, enfin, on va recommencer à rediscuter.
Mais le vrai problème est l'Antarctique a des ressources qui, avec une valeur, une petite fraction, une fraction de celle de la Lune. Il y a des richesses incroyables à l'exploitation de l'avenir, et ça, c'est le problème.
Oui, raison de plus, ouais, qu'il y aura de la concurrence. Ouais. Bon, ben, je crois qu'on va peut-être arrêter là, mes amis, et remercier le professeur Joseph Silk.
Merci.